Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire avec Chantal. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est le basique du comité contre la faim, catholique contre la faim et pour le développement, la faim. Il y a eu la journée de l'alimentation au mois d'octobre-novembre, il y a beaucoup de choses. Il y a la semaine de solidarité internationale, il y a la journée contre la misère et il y a aussi une journée autour de l'alimentation. Et cela nous amène, dans cette émission, à reparler de ce qui était à l'origine du Comité catholique contre la faim et pour le développement, c'est-à-dire la lutte contre la faim.
Oui, alors justement, il y a la Croix qui a sorti un article « Vivre en insécurité alimentaire ». Où en est-on actuellement ? Il y a combien de personnes qui sont encore à vivre sans avoir
manger.
Accès ? Voilà, sans...
Alors c'est vrai que penser qu'en 2014, il y a encore 805 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui mangent mal, c'est quand même quelque chose de grave. C'est vrai qu'il n'y a plus les grandes famines qu'il y avait dans l'histoire, dans notre histoire. En Europe, les famines ont disparu seulement au XIXe siècle, lorsqu'on a été capable de mettre de l'engrais et de transformer nos paysages et en faire des paysages agricoles qui produisaient davantage. Mais dans d'autres pays, cela ne s'est pas fait aussi rapidement, et les révolutions vertes n'ont pas donné toujours les résultats escomptés. Surtout, elles n'ont pas permis de donner de l'aliment aux plus pauvres. Donc il y a toujours eu une partie de la population qui était mal nourrie et qui mourait de faim. Alors plus de grandes famines, où véritablement tout le monde meurt de faim, sauf lorsqu'il y a des guerres. Évidemment, lorsqu'on utilise les champs pour faire la guerre, on ne peut pas faire pousser de blé, n'est-ce pas ? Et en dehors de ces cas de troubles importants qui font que les populations ne peuvent pas cultiver, ne peuvent pas se nourrir, sont réduites à être nourries par le programme alimentaire mondial, en dehors de ça, il y a quand même cette insécurité alimentaire, et puis c'est donc ces 805 millions de personnes qui mangent mal. Alors, qui mangent mal, ça veut dire qu'elles n'ont pas suffisamment de protéines. Et évidemment, cela provoque des troubles de la santé, puisqu'il faut des protéines pour le développement humain. Et notamment, cela provoque des insuffisances intellectuelles chez les enfants qui ont été mal nourris, par exemple. Il y a aussi, bien sûr, tous ceux qui, mangeant mal, n'ayant pas d'eau potable, sont victimes des maladies liées à la faim et à la malnutrition, les diarrhées. Et puis aussi, cela va avec l'ingestion d'eau sale. Mais cela va mieux. Alors cela va mieux parce que ces 805 millions de personnes, eh bien il y en avait 900 millions autour des années 60. 805 millions, ça a baissé de 100 millions, c'est déjà ça. En tout cas, pour ceux qui mangent mieux, eh bien c'est mieux. Et puis, la population, entre-temps, a augmenté. Donc, 900 millions, 1 milliard sur 3 milliards et demi, c'est beaucoup plus que 805 millions sur 6 milliards et demi. Voilà. Alors, par contre, on peut toujours chercher l'erreur. Comment se fait-il, alors qu'il y a une production alimentaire suffisante, que dans les pays du Sud, on mange mal, ou que les récoltes des pays du Sud ne permettent pas d'alimenter bien les paysans? Et oui, alors le pire, c'est que ce sont les paysans, souvent, qui souffrent de la faim. Peut-être
oui,
en parler.
Alors justement, il y a les émeutes de la faim en 2006 qui nous ont rappelé qu'on était sur un modèle de croissance pas tout à fait correct concernant l'objectif de nourrir tout le monde.
Oui,
et parce que ces émeutes de la faim ont eu lieu partout sur la planète, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique. Et même dans les pays
orientaux.
Oui, c'est
vrai. Alors, par exemple, Moyen-Orient, les troubles en Égypte, les troubles en Tunisie, ça commence toujours par une augmentation importante des prix agricoles. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, au moment des récoltes, il y a suffisamment de nourriture, mais où sont les chambres froides qui permettent de stocker la nourriture? Où sont les moyens de transport qui permettent d'acheminer la nourriture vers les endroits où elle manque? Donc, il y a des questions techniques. Et puis, transporter de la nourriture par camion sur les pistes africaines, c'est compliqué. Donc, il y a cet aspect technique. Et puis, il y a aussi la spéculation alimentaire. Alors, la spéculation alimentaire qui fait qu'on retire un certain nombre de produits alimentaires de l'alimentation humaine pour aller vers l'alimentation du bétail. Alors, Pensons par exemple aux immenses champs d'Amérique latine où on fait pousser du soja. Pensons aux plantations qui s'installent sur des terres précédemment agricoles où il y avait auparavant des cultures vivrières. Donc la spéculation, ce n'est pas la spéculation qui fait monter le prix des produits agricoles en direct par un vilain monsieur qui joue sur les prix. Encore que ça aussi, cela existe. Mais il y a donc le fait d'enlever des terres à la production agricole et de transformer une agriculture vivrière en une agriculture pour vendre de la nourriture pour les porcs ou pour produire du bioéthanol pour les bagnoles. Alors, il faudra choisir agriculture pour vivre ou agriculture pour vendre, nourrir les hommes ou mettre de l'essence dans les voitures. C'est un peu violent d'employer cette comparaison, mais c'est cela que cela veut dire, au fond. Donc, des conflits, parce que lorsque les gens ont faim, lorsqu'ils savent qu'ailleurs on mange, ils savent même qu'ailleurs, peut-être, on gaspille. Donc, il y a là une nécessité pour vivre, et pour vivre en paix, pour vivre tout le monde.
Alors, j'ai cru comprendre que l'agriculture ou les récoltes deviennent aussi des purs produits financiers.
Alors, produits financiers, oui, dans la mesure où il y a un marché des produits agricoles. En fait, parmi ce qui circule le plus dans le monde, il y a le pétrole, certes, mais il y a aussi le blé. Le blé qui circule des champs d'Amérique du Nord vers l'Australie. Lorsqu'il y avait un embargo vers la Russie, eh bien, ça transitait par l'Australie pour aller du Canada vers la Russie. Mais de toute façon, la grande production céréalière va d'un bout à l'autre du monde au gré des marchés. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a des modes. L'Africain qui ne mangeait que du mil et du sorgho, il a appris à manger de la baguette, alors que le blé n'est pas la céréale appropriée pour les terres africaines. Et puis, en Chine, à côté du riz et du blé, qui poussent naturellement dans ces pays, en tout cas le blé en Chine du Nord, il y a aussi des modes alimentaires qui viennent peut-être du système américain, européen, occidental, qui apparaît comme étant très souhaitable. Donc, il y a un marché des produits agricoles et aussi les gens qui font de l'argent sur ces produits agricoles, oui.
Aussi, quand tu parlais tout à l'heure du changement de mode de vie, que maintenant, c'est vrai que les attitudes alimentaires, dès qu'il y a eu une partie de la population qui a pu s'enrichir un peu, la consommation en viande a énormément augmenté.
Alors ça, c'est autre chose. Il y a aussi la concurrence de l'alimentation pour le bétail. Dans la mesure où le Chinois qui ne mangeait pas de bœuf trouve que le beefsteak, c'est pas mal, et alors que naturellement, en Chine, on avait le poisson, les canards et puis les porcs. Et bien maintenant, il y a peut-être l'habitude aussi, c'est vrai dans beaucoup de pays, une mode. On mange un peu de fromage, on mange un peu de viande. Et puis, cela traduit un niveau de vie. Exactement comme, vous avez certainement appris que sous Henri IV, eh bien, on voulait qu'on puisse mettre une poule au pôle dimanche, eh bien, il y a quelque chose qui est de la même nature, c'est-à-dire manger bien, c'est aussi une manière de se présenter. Alors, dans nos pays où on mange bien et trop et où c'est facile de s'alimenter, bien au contraire, ce qui est à la mode, c'est d'être ultra mince. Mais dans d'autres pays, le bien manger reste très important. Et puis derrière l'ultra mince, ça veut dire que l'on va choisir ce qui ne fait pas grossir, donc peut-être une alimentation carnée. Donc là aussi, il y a peut-être à revoir nos modes de vie pour que on mange mieux et qu'il y ait de la nourriture pour tous.
Et alors maintenant, quelle forme de solidarité on pourra avoir pour ces millions de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture vitale ? Parce que là, on parle...
Alors, on a évoqué justement ces changements alimentaires. On a évoqué cette alimentation qui circule. Cela va dans tous les sens. C'est vrai que dans les modes... Ben, il est de bon ton, ou dans certains milieux, cela se fait de manger des fraises à Noël, de manger des produits qui viennent de très loin. Je pense que ma grand-mère ne connaissait pas litchi, les pamplemousses, c'était rarissime. Et puis ben, maintenant, le pamplemousse est devenu quelque chose de très commun, même dans les cantines scolaires. Un certain nombre de produits sont devenus des produits qui circulent. Donc, puisqu'ils circulent, ça veut dire que là où on les produit, il y a une demande plus forte. Et je pense, par exemple, à une céréale comme la quinoa. La quinoa, c'est la céréale des paysans d'Altiplano d'Amérique latine. Eh bien, le fait de consommer de la quinoa, que dans nos assiettes, on puisse trouver ce produit, fait que là-bas, en Amérique latine, le marché a été chamboulé. Donc, il y a ces modes. Et puis, il y a aussi le fait que nous sommes plus nombreux, on ne dispose que d'une seule planète. Donc, pour maîtriser le réchauffement climatique, il faut peut-être éviter de faire circuler des avions ou des moyens qui vont transporter ces aliments. Il y a une surface habitable plus restreinte puisqu'il faut construire des maisons partout et que les zones de culture ne sont pas, elles, extensibles. Donc, pour qu'il y ait plus de place pour tous et plus de place pour nourrir les hommes, eh bien, il faut peut-être devenir des locavores, c'est-à-dire consommer local. Consommer local, ben, peut-être exceptionnellement les fraises en hiver ou exceptionnellement des produits importés à grands frais d'ailleurs, et peut-être retrouver les légumes locaux, ça c'est une chose. Peut-être manger moins de viande, puisque pour nourrir... la vache ou le porc, il faut importer à grands frais de l'aliment qui vient du bout du monde. Eh bien là aussi, il y a peut-être à revoir nos modes d'alimentation et faire en sorte que la viande rouge, le beefsteak, ne soit pas le beefsteak quotidien, mais que ce soit le beefsteak ou la viande rouge une ou deux fois par semaine,
oui,
par exemple.
Et aussi au niveau du gaspillage.
Alors enfin, dernière chose...
Et de la perte des récoltes dans le sud et gaspillage dans le nord.
Oui, tout à l'heure j'évoquais où sont les chambres froides et où sont les moyens de transport efficaces. Alors il y a ce gaspillage, les récoltes sont gaspillées parce que lorsqu'elles sont produites, on n'a pas forcément les techniques ou les moyens de les stocker et de les stocker dans de bonnes conditions. Mais il y a peut-être nos emballages à revoir lorsque vous êtes tout seul et que vous voulez acheter des yaourts. Eh bien les yaourts, ça ne se vend pas. Pas par deux, ça se vend par quatre au minimum. Et puis il y a une date de péremption qui fait qu'un yaourt, vraisemblablement, sur les quatre, ira à la poubelle. Donc il y a là aussi peut-être à revoir notre alimentation et éviter ce gaspillage. Cela conforterait à la fois l'alimentation de tous et puis cela conforterait aussi la bonne santé du porte-monnaie de chacun. En tout cas, la faim, une réalité, et une réalité qu'il faut combattre par une meilleure agriculture, par une solidarité accrue et peut-être aussi en faisant chacun quelques progrès pour penser que la solidarité est nécessaire aussi dans ce domaine. Voilà. Allez, bonne semaine à tous.